Radio Kapi.
Au sommaire de ce journal, le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain est arrivé hier mardi dans la soirée à Lubumbashi. Félix Tshisekedi est le tout premier candidat président de la République à battre campagne dans la capitale du Cuivre. Adolphe Mouzito a mis le cap hier mardi sur Kamounia dans la province du Kassai, pendant que Moïse Katumbi achève sa campagne dans le Grand Équateur. Au Kwilu, plus de 70 décès sont déjà enregistrés dans le camp des déplacés de Kwamout qui vivent à Bandundouville, chef-lieu de la province. Ces déplacés internes se disent abandonnés par le gouvernement congolais et vivent dans des conditions très difficiles à Bandundu, où ils ont déjà passé plus d'une année. Au sud Kivu, l'avènement d'un centre médico-légal à l'université officielle de Bukavu constitue un pont entre la justice et la médecine. Avis du secrétaire général à la recherche au sein de cette institution universitaire, le professeur Arnold Nyaluma est l'invité de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle de décembre de 2023 est arrivé hier mardi dans la soirée à Lubumbashi. Au cours de son meeting, Félix Tshisekedi, devant ses sympathisants, a sollicité qu'il lui renouvelle la confiance pour qu'il consolide les acquis de son premier mandat. Parmi les sujets développés se trouve aussi la situation sécuritaire dans l'est du pays et l'emploi des jeunes. Notons qu'à 2 semaines de la tenue des élections, Félix Tshisekedi est le tout premier candidat président de la République à battre campagne dans la capitale du Cuivre. Témoin de l'événement, Jean Gandou.
Arrivé à l'aéroport de la Luano aux environs de 19h, le candidat numéro 20 s'est présenté sur le podium érigé à la grande place de la Poste au centre-ville peu avant 21h. Prenant la parole au bout d'une vingtaine de minutes, Félix Tshisekedi a déroulé ce qu'il compte faire une fois réélu. C'est notamment consolider les acquis du premier mandat, à savoir la gratuité de l'enseignement de base, la couverture santé universelle avec les accouchements gratuits, ainsi que le programme de développement des 145 territoires. Il a aussi promis la création d'emplois, s'appuyant notamment sur l'agriculture dont les produits devraient être transformé localement. Au sujet des investisseurs miniers, il a salué ceux qui se sont déjà mis au pas pour que cette fois-ci, le partenariat avec le gouvernement congolais soit gagnant-gagnant. Sur le plan politique, il s'est inscrit dans la poursuite de la lutte menée par feu Laurent Désiré Kabila pour libérer totalement la RDC de la politique des impérialistes. Il a aussi demandé à l'assistance de ne jamais trahir le Congo, comme ne cessait de le répéter l'ancien président de la République. Avant de terminer, Félix Tshisekedi a fustigé le tribalisme et les propos séparatistes tenus par certaines personnes. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
En campagne électorale, Adolphe Mouzito a mis le cap hier mardi sur Kamounia dans la province du Kassai. Dans son speech, l'ancien Premier ministre a promis d'augmenter le budget de l'État, de construire des routes et d'augmenter les salaires des fonctionnaires moyens ainsi que les militaires et les policiers. Adolphe Mouzito a également promis de faciliter l'octroi des crédits bancaires et de combattre l'insécurité. Plus de détails avec vous, Enoch Matondo.
Devant une foule nombreuse venue l'écouter, Adolphe Mouzito a rappelé aux habitants de Kamounia que son voyage dans cette contrée en 2017 avait raté faute d'insécurité dans cette partie du pays. Il y venait en réparateur car le problème de sécurité est repris dans ce programme puisque l'État accuse des difficultés quant à la résolution de l'insécurité depuis l'indépendance. Autre point abordé par l'ancien Premier ministre, la baisse de l'économie congolaise. Il faut augmenter le budget de l'État. Ceci permettrait l'augmentation des salaires des fonctionnaires et des militaires. Adolphe Mouzito a rappelé qu'il est le premier Premier ministre à augmenter le budget de l'État à plus d'1 milliard de dollars américains. Le gouvernement Tshisekedi avait augmenté le budget certes, mais il a été mal utilisé, dit-il. Moi, je sais comment en faire, ajoute Adolphe Mouzito, qui promet que ce budget peut être augmenté entre 10 et 20 milliards de dollars américains s'il bénéficie des voix des Congolais. Les enseignants et les policiers seront bien payés, ce qui permettrait également aux agriculteurs, pêcheurs et autres commerçants d'écouler facilement leurs produits. Avec un bon budget, nous allons construire les routes, a ajouté Adolphe Mouzito. Ce candidat président de la République a également promis faciliter l'octroi des crédits dans les systèmes bancaires en République démocratique du Congo.
Et pendant ce temps, Moïse Katumbi achève ce mercredi sa campagne électorale dans le Grand Équateur. Son passage est marqué par des meetings populaires tenus notamment en Mbandaka, Badolité, Gemena, Lissala et Bumba. Selon une source proche du candidat numéro 3 à la présidentielle, Moïse Katumbi effectuera dans les prochaines heures une visite de campagne à Inongo, dans les Maïndombé, avant de regagner Lubumbashi. Denis Mukwege est attendu à Kisangani. Le candidat numéro 15 à la présidentielle y tiendra un meeting populaire à la Grande Place ce mercredi 15 décembre. Et pour sa part, le candidat numéro 21, Martin Fayoulou, est attendu ce mercredi 6 décembre en Bandaka. C'est ce que nous rapporte des sources proches de son équipe de campagne. Dans le même registre, Nkema Lilo envisage une réforme sans précédent de l'armée, des services de sécurité, de la police ainsi que de la justice, tant civile que militaire. Il a fait promesse à la population de Boyende lors d'un meeting populaire qu'il a tenu le mardi 5 décembre. Et puis, le Parlement des jeunes de l'Ituri fustige l'utilisation de personnes déplacées par certains acteurs politiques à des fins électoralistes. Cette structure d'encadrement de la jeunesse dit avoir fait ce constat lors du passage d'un des candidats à Bounia. Selon son coordonnateur provincial, des politiciens profitent de la vulnérabilité de ces personnes en leur remettant des modiques sommes en échange de leur présence à leur meeting de campagne. Pour Gloire Abassi, l'argent que ces candidats remettent à se déplacer devait plutôt servir à l'amélioration de leurs conditions de vie. On l'écoute au micro de Jean-Claude Lokidile.
Ce n'est pas un problème un citoyen puisse aller accueillir solidaire soit la personne qu'il veut à l'aéroport, mais ce que nous avions déploré, c'est du fait que les déplacés qui sont là conformément au droit international humanitaire, ce sont des personnes qui sont vulnérables. Mais nous avions plutôt constaté la manipulation de ces gens. Beaucoup des candidats pensent qu'ils ont la population derrière eux, mais les gens partaient plutôt à l'aéroport pour ne plus que se retrouver ou avoir une petite chose comme argent et pour des petits montants de 5000 francs. Vous pouvez être déplacé ou ne pas être déplacé, mais pendant cette période, c'est le moment de se choisir. Les gens qui vont sûrement plaider notre cause, on a plutôt senti les gens courir de gauche à droite. Aujourd'hui, la tête déjà est affectée par l'argent. Or, l'argent ne doit pas sûrement donner solution à tout ce que l'Ituri est en train de passer. L'Ituri se doit aujourd'hui des leaders qui doivent mettre en amont et en aval l'intérêt supérieur de la province de l'Ituri.
Au Kwilu, plus de 70 décès sont déjà enregistrés dans le camp de déplacés des Kwamout qui vivent à Bandundouville, chef de la province. Il s'agit de ceux qui ont fui les violences liées au conflit interethnique à Kwamout, au Maïndombe. Selon ces déplacés internes qui se disent abandonnés par le gouvernement congolais, ils vivent dans des conditions très difficiles à Bandundu, où ils ont déjà passé plus d'une année. Ces Congolais déplorent notamment l'absence des soins de santé et de la nourriture. Ces personnes vulnérables qui désirent entrer dans leur village d'origine tirent la sonnette d'alarme et demandent l'assistance du gouvernement en leur faveur. Irène Mboma pour plus de précisions.
Nous sommes au quartier Malebo, précisément au camp des déplacés de Kwamout vivant dans la ville de Bandundu. Ici, la situation de ces déplacés internes, parmi lesquels les femmes et les enfants, est de plus en plus déplorable, comme le témoigne Bienvenu Kassiama, l'un d'entre eux.
La vie n'est pas bonne. Quand vous venez ici au site Malebo, vous trouverez les enfants qui sont malades. Il y a la malnutrition aux enfants et même les parents. Nos enfants sont non scolarisés, nous mangeons difficilement. Il n'y a pas de toilettes, nous démenons aux parcelles proches pour demander encore des toilettes, faire des petits besoins, grands besoins. On se lave la nuit, c'est pas la journée. Il n'y a pas de douche, comment se laver en plein air?
Selon lui, des cas de décès ne cessent de se multiplier dans ce site à la suite de toutes ces conditions de vie précaires.
Depuis que nous sommes là, il y a une multitude de décès qui s'ajoutent. C'est plus de 70 décès, des petits-enfants, mais il y a aussi les vieillards qui meurent.
Bienvenue Kassian Malas, NSOS, auprès du gouvernement congolais, afin de leur venir en aide.
Nous demandons l'assistance à l'État congolais. Nous sommes aussi congolais comme tout le monde. L'État ne s'occupe pas de nous.
Il s'est de signaler que cela fait plus de 8 mois que ces personnes déplacées n'ont bénéficié d'aucune assistance de la part du gouvernement, ont-elles déclaré. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Nord Kivu, la cité de Mushaki, en territoire de Masisi, est stratégique du point de vue économique dans cette province. Située à environ 40 km au nord-ouest de la ville de Goma, en groupement Mapfuni, Matanda, cette entité regorge de nombreuses potentialités économiques pour l'économie de la province du Nord Kivu. Cela de par ses divers aspects agro-pastoraux et touristiques notamment. Pour le député provincial Alexis Baunga, Mushaki étant un carrefour économique très important, de perdre aujourd'hui, c'est l'économie des territoires de Masisi et de la province du Nord Kivu qui va en pâtir. On l'écoute au micro de Denis Lukeso.
Mushaki, c'est un passage obligé. Son importance économique est que Mushaki, c'est un marché de bétail, donc les gros et petits bétail, parce que tous les fermiers prennent leurs vaches et leurs chèvres et viennent les vendre à Mushaki. Ce qui fait que c'est un carrefour pour les fermiers. Deuxième chose, c'est que Mushaki, c'est la route qui mène à Masisi Centre et à Walikale. Donc si Mouchak est occupé par des assaillants, ça fait que ça va bloquer la route. Personne n'ira plus à Massissi ou à Walikale. Donc tout ce qui a comme d'arrêt ou produit manufacturé de goma n'ira plus à Massissi. Et ça sera donc un problème pour la province. Et tout même que la province perçoit des taxes là-bas. Et donc il y a des postes de perception aussi de la province pour ces différentes taxes. Il y a aussi un autre aspect, c'est que Mouchaki s'est devenu un centre touristique. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent de Goma, qui viennent d'ailleurs, qui en voulant visiter Massissi, comme Massissi est une zone verte. Ils passent par Mouchaki, là où il y a des fermes qui ont une certaine verdure, et les gens s'y rendent pour aller visiter ces différentes concessions en termes de tourisme. Voilà donc les trois types d'importance économique et regorge Mouchaki.
Et toujours au nord Kivu, la prison centrale de Kwangwai de Beni a réceptionné lundi dernier des vivres et non-vivres dans du comité international de la Croix-Rouge. Ces dents étaient composées de la farine de maïs, de manioc, de haricots, d'huile, de sel et de légumes. C'est pour améliorer la prise en charge alimentaire des détenus, comme l'explique ici Diana Stotlin, chef de bureau CICR Beni, au téléphone de Marc Marofimbo.
Comme vous le savez, dans le cadre de son mandat visant la protection des personnes affectées par les conflits armés, le CICR mène des visites régulières dans certains lieux de détention en RDC, tels que la prison urbaine de Beni. Les visites du CICR visent à assurer le traitement humain des personnes privées de liberté et l'amélioration des conditions de détention, au besoin à travers un appui aux autorités détentrices. Par rapport à cette assistance qui a commencé il y a 3 jours, donc lundi dernier, c'est une assistance en nourriture ad hoc pour la totalité de la population carcérale de la prison et qui aura la durée d'un mois. Et elle vient compléter les efforts fournis par les autorités pénitentiaires et la zone de santé de Beni. Cette assistance s'ajoute également au programme CICR qui sont déjà en cours dans la prison urbaine de Beni et qui continueront d'ailleurs en 2024.
À Beni, une hausse du prix du charbon de bois est observée dans différents marchés de la ville depuis quelques jours. La rareté de la braise est à la base de cette situation, expliquent les vendeuses qui mettent également en cause l'insécurité dans la région. C'est un reportage de Rose Kitengi.
Un sac de charbon de bois qui s'est vendu il y a 2 semaines entre 50 000 francs et 60 000 francs congolais s'est négocié actuellement à 90 000 francs congolais sur les marchés à Beni. L'insécurité dans certaines zones de fabrication et l'expédition vers d'autres villes du Nord Kivu des quelques sacs de charbon de bois disponibles sont à la base de cette situation. Kakule Vana Ase, fournisseur du charbon de bois au marché Mayango C à Beni, explique.
Premièrement, c'est la sécurité. Deuxièmement, c'est là qu'il faut brûler les braises sont en train de faire la culture des haricots. Alors, pour réussir à fournir cette ville, en braise devient difficile.
Cette situation contraint bon nombre de personnes à se rendre à Oicha, à 25 km de Beni, pour se procurer des charbons de bois. Certaines femmes vendeuses de frites dans la ville de Beni parlent d'une situation qui affecte leur commerce. L'une d'elles témoigne.
C'est vraiment très compliqué qu'ils s'efforcent de réduire le prix de la braise. Je prépare du frites, nous n'en bénéficions pas du tout vraiment qui nous aide. Nous ne sommes pas capables de faire hausser le prix car nos clients sont habitués au même prix. Nous avons un manque à gagner tous les jours à cause de cette hausse du prix de la braise.
Le charbon de bois est utilisé dans plusieurs ménages et restaurants de Beni.
Rose Kitenge sur Radio Kapi. Dans la province du Maniema, c'est depuis le lundi 4 décembre dernier que les cadres et agents de l'Institut supérieur de développement rural, Isder Kindou, sont en sit-in devant la banque Tembe. Ces derniers réclament toujours leur salaire de 2 mois, soit octobre et novembre. On écoute leur porte-parole circonstancielle, Voltaire Mbili Kambango, dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Ça vous surprend certainement. Ici, vous êtes en présence des agents de l'ISDR. Tous sont mobilisés et c'est le deuxième jour que nous sommes ici dans l'enclos de la TMB. C'est tout simplement parce que depuis que le trimestre a commencé, tous les agents de l'ISDR n'ont pas perçu leur salaire. C'est surprenant. Alors, nous nous sommes renseignés ici à la TMB. Le gérant nous dira que l'enveloppe de l'ISDR a été amputée. C'est insuffisante par rapport aux agents qui doivent percevoir ces salaires-là. Et l'OD national a écrit une lettre à la Banque centrale nationale pour compléter cela. Et des salaires Isder Kibombo et Isder Kabambar qui est venu. Alors que ces deux institutions n'ont pas ces problèmes-là. Déjà, le message pour le paiement des salaires de novembre pour les autres institutions est déjà sorti. Ils commencent à percevoir. Nous, aucun à l'institution, il n'y a plus rien. Les étudiants sont en chômage. Tous les bureaux sont fermés parce que les agents ne savent savent pas comment aller travailler alors qu'ils ont faim. Maintenant là, nous réclamons des mois. Sinon, les choses vont continuer à se gâter à l'ISD. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rester chez nous jusqu'à ce que l'État va nous remettre dans nos droits.
Actualité internationale.
Troisième visite en Libye du vice-ministre russe de la Défense en moins de 4 mois. Younous Bek Yevkourov s'est également rendu au Niger et au Mali afin, selon Moscou, de renforcer la coopération et les partenariats avec ces pays africains. L'étape libyenne a relancé la discussion sur la présence militaire russe en Libye et l'instauration d'une base navale russe à Tobrouk dans l'est libyen, un accord pourtant nié par l'armée nationale libyenne.
L'invité.
Au sud Kivu, l'avènement d'un centre médical légal à l'université officielle de Bukavu constitue un pont entre la justice et la médecine. Avis du secrétaire général à la recherche au sein de cette institution universitaire, le professeur Arnold Nyaluma est l'invité de ce journal. Il est à Bukavu avec Jean Kassami.
Professeur Arnold Nyaluma, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'acquérir un centre à l'université officielle de Bukavu. Ça s'appelle comment et ça va servir à quoi?
Le centre médico-légal sert de pont entre la justice et la médecine. Donc là-dedans, il y aura des activités de recherche, de laboratoire, qui pourraient notamment permettre d'élucider certaines questions en justice. Parfois, on a cherché des traces de viol sur le corps de la victime ou sur le corps de l'auteur. Parfois, on a du mal à déterminer des causes lointaines du décès lorsqu'on a trouvé un cadavre. Aujourd'hui encore, il y a d'autres questions. Les gens veulent retrouver leurs origines à 3 ou 4 générations. Et tous ces services-là, c'est à travers un centre médico-légal. C'est donc une spécialisation en médecine, mais qui est tournée essentiellement vers le droit.
Pensez-vous, professeur, que votre université, l'IOB, dispose de tout le nécessaire pour faire fonctionner convenablement ces centres?
Oui, l'université a des compétences qu'il faut, la volonté également, le moyen. C'est vrai qu'on n'a pas tous les moyens nécessaires, mais vous voyez qu'avec le fonds propre, on est en train de construire une morgue, et donc les moyens sont là. Mais l'idée aussi, c'est que le centre doit être générateur de moyens. La manière de le gérer permettra de rendre un certain nombre de services à la population. C'est vrai, on est une université publique, et donc on doit rendre d'abord des services publics gratuits, mais la participation au prêt permettra de maintenir les infrastructures, mais aussi d'en construire d'autres. Mais la grande construction, c'est d'abord de l'homme, c'est-à-dire les recherches qui vont être menées à partir de ces laboratoires va nous permettre de produire des médecins légistes, des criminologues spécialisés, des juristes spécialisés en médecine, en droit médical, etc. Et donc nous pensons que d'ici 5 ans, les ressources humaines qui font défaut dans la région seront disponibles également.
Parlons des indemnités destinées aux médecins légistes. Quelque part, je vous ai senti dubitatif.
Parce que entre la pratique et la loi, il y a une grande marge. L'article 51 du Code de procédure pénale prévoit que lorsque le médecin a presté comme expert, ils ont droit à une indemnité. Alors ce n'est pas le justiciable qui paye. C'est le gouvernement qui doit devoir payer. L'on distingue selon que le médecin requis est déjà payé par le gouvernement ou pas, mais à côté des prestations de médecin, il y a du matériel qu'on utilise. Et donc nous aurons, je l'espère bien, un accord avec le ministère de la Santé, avec le ministère de la Justice, pour que l'on dise comment ces indemnités seront payées par le gouvernement congolais pour financer le centre. Sinon, s'il n'y a pas de financement, et si tout est gratuit, le centre ne pourra pas survivre.
Vous constatiez quelques incohérences quant aux décisions judiciaires avant lesquelles vous pensez vont appartenir au passé.
Par exemple, dans la loi sur les violences sexuelles, il est prévu qu'avant de commencer le procès, le psychologue et le médecin doivent évaluer la situation de la victime pour savoir si elle peut tenir un procès. Or, jusque-là, le médecin était désarmé. On a eu beaucoup de cas où on renvoie effectivement des réquisitions à médecin, mais le médecin est désarmé, il ne fait pas faire d'autopsie, il y a beaucoup d'examens qui ne sont pas effectués. On a eu beaucoup de cas, des procès autour de la paternité ou de la maternité ou des liens familiaux, et jusque-là, nous n'avions pas de réponse dans la région. Donc, nous pensons qu'avec l'avènement de ce centre, il y a beaucoup de questions de justice qui seront élucidées.
Professeur Arnold Nyaluma, je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité, le secrétaire général à la recherche au sein de l'université officielle de Bukavu, IOB, le professeur Arnold Nyaluma, était à Bukavu avec Jean Kassami. Fin de ce journal, merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales des Radio Okapi.